Hello tout le monde, deux semaines depuis ma dernière note vocale, c'est un peu long, mais c'est aussi parce que voilà, le mois de septembre a été chargé en événements, en déplacements, en séminaires, etc. Tout ça est un peu passé, donc on va essayer de reprendre le rythme jusqu'au moment où il y aura à nouveau une pause. En fait, j'ai l'impression un peu d'alterner comme ça des reprises avec des pauses. Et c'est dommage parce qu'en fait, à chaque fois que je fais des pauses, et bien ensuite, je perds le fil, en fait. Comme ces notes vocales, c'est principalement pour commenter l'actu, et bien je perds un peu le fil de ce que j'ai envie de dire, et des commentaires, et de ce que j'ai déjà commenté, pas commenté et tout. Sachant qu'en plus, j'ai la matinale aussi, le mardi matin, où je commente en partie. Alors, de toute façon, il y a une forme de redondance, et il y a des choses qui ne sont pas forcément pertinentes d'être redondantes. Et en fait, quelque part, dans la matinale, j'essaye de commenter. Déjà, j'ai une trame dans l'émission, puis on fait toujours un peu de veille autour des produits, de production, des outils no-code. Et puis là, dans le podcast, j'essaye de décrypter un petit peu des choses plus autour de l'IA qui me paraissent intéressantes. Et puis voilà. Mais bon, il y a voilà, des choses comme ça qui font que bah, j'oublie un peu. Et puis en plus, après, ça s'accumule. Et donc, je me dis, ah bah faut que j'attende d'avoir des choses. Enfin bref. J'ai l'impression de vous avoir dit ça déjà pas mal de fois, mais il se trouve que je croise aussi quand même très régulièrement des gens qui me disent qu'ils écoutent ces petites notes vocales, et donc ça me fait plaisir et ça me donne envie d'en faire. Alors, où est-ce qu'on en est dans l'IA ? La rentrée, il y a eu plein de choses. Il y a différents angles, et vous le savez, dans l'IA, je suis tout particulièrement le vibe coding, puis je fais des lives et je pratique, etc. Niveau vibe coding, la grosse news, c'est quand même l'intégration du back-end dans Lovable. Ça y est, ça marche pour de vrai, parce qu'il y a eu un peu des faux départs et tout. C'est une intégration de Supabase. Ça, vous n'avez pas forcément vous n'êtes pas obligé de le savoir, parce qu'ils ont tout fait en sorte vraiment pour que vous n'ayez pas à vous en soucier. Et donc, ils ont tout intégré dans Lovable. Enfin, c'est pas mal, c'est bien fait, c'est correct, ça marche pas toujours parfaitement, il y a des bugs, mais c'est pas mal. On peut dire que maintenant, voilà, Lovable est un outil full stack. Alors pour faire des projets un petit peu plus simples, alors ce qui est bien avec du fait de savoir que c'est du Supabase en back-end, même si vous n'avez plus à vous en soucier, c'est que, on va dire, ça doit tenir la route d'un point de vue performance. Ça, c'est une bonne nouvelle. Si vous avez des petites applications que vous voulez faire, une bonne option, c'est quand même Zeit, que j'ai beaucoup utilisé, donc Zeit qui est fait par l'équipe de Fillout, et qui me plaît bien, et qui a aussi une petite base de données intégrée, et donc qui est full stack. Zeit, ils ont encore fait un post là récemment, le fondateur, disent Zeit, c'est pas fait pour faire des grosses applications avec des millions d'utilisateurs, c'est fait pour faire des petites applications, des business apps, des applications pour votre organisation, votre entreprise, votre asso, etc. Et ça, c'est l'angle qui me parle bien, vous le savez. Donc, voilà, ça, c'est les news. Donc, vraiment, la course sur les outils de vibe coding de plus haut niveau, donc de la catégorie de Lovable, etc., c'est une course à être full stack, pour moi, clairement. Les modèles d'IA commencent à bien fonctionner. On a d'ailleurs maintenant le modèle Claude Sonnet 4.5 qui est sorti, qui est très performant. Il y en a plein d'autres, GPT-5 est très solide, donc les modèles, en termes de code, ils sont bons. Et donc maintenant, c'est, comme je le dis dans mes conférences et tout, c'est l'ingénierie qui vient autour et donc les outils de vibe coding qui apportent la différence. Le fait d'intégrer un back-end, une base de données, de l'authentification, etc., on pourra revenir un jour dans la définition plus précise d'un back-end, mais eh bien, c'est ça qui va faire la différence. Bolt s'apprête à le sortir. Pour l'instant, c'est en bêta, mais ça a l'air d'être assez similaire à ce que Lovable a fait. Mais voilà, Lovable, ça marche bien. Je l'ai testé. Voilà, il y a dans mes replays sur ma chaîne YouTube, vous pouvez aller voir. Donc voilà. Donc côté vibe coding, ça avance, les outils deviennent de plus en plus intéressants, les modèles deviennent de plus en plus intéressants. Pour moi, si on n'est pas technique, c'est toujours pas prêt pour de la production. Il y a trop de problèmes encore de performance, de sécurité, etc. Et éventuellement même de blocage, même si je dois dire qu'on est de moins en moins bloqué quand même dans les outils de vibe coding. Les boucles infernales et tout auxquelles on faisait face il y a encore quelques mois, commence à être franchement résolu. Mais bon, plus on veut faire un projet qui est complexe, notamment avec un back-end, avec une base de données un peu robuste, avec des gestions de droits, des gestions de groupe et tout, plus quand même, ça va quand même être compliqué et on risque d'avoir des problèmes de sécurité notamment. Donc voilà, pour moi, ça ne change pas le problème, c'est pas vraiment prêt pour la production, pour faire des choses complexes, à moins que vous soyez développeur ou que vous ayez un bagage technique solide qui fait que vous allez pouvoir compenser les lacunes de l'IA. Voilà, tout ça, c'est tout ce que je raconte un peu dans mes conférences, et il se trouve que la conférence que j'ai faite à Rennes est enfin en ligne, et donc c'est cool parce que eh ben, vous allez pouvoir voir le replay, et je suis assez content. C'est une conférence qu'on a fait à deux, donc moi, ma partie dure un peu moins de 15 minutes, on s'est coupé en deux. Mais voilà, vous avez un angle, une idée que j'ai eue, c'est moi qui... avec un parallèle entre le vibe coding et puis le pop art, et puis Basquiat et Warhol, etc., qui est quelque chose que j'ai envie de creuser parce que je trouve que c'est un peu sympa. Ça donne un petit fil conducteur et tout. Et puis, il y a des choses qui sont très, très pertinentes, en fait, qui sont très vraies dans l'histoire de l'art. Et puis là, avec... Voilà, je vous fais un petit teasing, mais vraiment, allez la voir si ça vous intéresse. Je vais pas mentir, hein, j'en suis assez content. Là, c'était la première version, je l'ai déjà refait une fois, ça n'a pas été capté. Je la referai encore une fois à la grande journée du no-code, je ne sais pas si ça sera capté ou pas. Et je la referai aussi en anglais à PI Days. À chaque fois, quand je dis refaire, ben vous le savez, hein, j'essaie toujours d'améliorer. Déjà, il y a différents formats, différents timings suivant les... Mais mon but, c'est vraiment de faire une belle présentation sur le vibe coding, sur c'est quoi, ce que c'est le vibe coding, ce que c'est pas, et surtout ma vision et quelle est l'opportunité pour les gens non techniques. Et comme je le disais, cette opportunité, elle n'est pas encore vérifiée parce que les outils ne sont pas prêts, mais elle viendra. Il y a une belle opportunité qui est l'opportunité du mouvement no-code, de démocratiser la technologie, etc. Bref, vous regarderez la conférence pour voir ça. On a eu notre séminaire à Lille aussi avec l'équipe de contournement. Parce que bien que je ne sois plus opérationnel, évidemment, je suis toujours très impliqué dans le projet, dans la direction stratégique. On a eu des choses que je n'ai pas envie de vous révéler tout de suite. On a eu beaucoup de discussions. On a eu beaucoup de discussions, en fait, notamment autour du... Il y a pas mal d'articles qui sont sortis récemment et je compte faire une petite newsletter sur ce sujet parce qu'il me touche pas mal. Et donc, j'ai partagé ça un petit peu avec l'équipe de contournement et on en a pas mal discuté, c'était très intéressant, sur l'impact de l'IA dans la productivité. Parce que, vous le savez, bon, le sujet de contournement, c'est les outils no-code, mais c'est surtout comment mieux travailler, comment se saisir de ces outils no-code dans son quotidien professionnel pour mieux travailler, un peu ce que Scarwell appelle la bureautique moderne, ce qui est un peu le sujet qu'on essaie d'adresser, et forcément, l'IA vient beaucoup là-dedans. Et il y a eu plusieurs études et plusieurs articles qui sont sortis qui étaient hyper intéressants sur, notamment, une notion que je trouve passionnante, c'est le work slope. Vous connaissez probablement le AI slope, donc c'est toutes ces vidéos éclatées au sol, générées par IA, qui envahissent les réseaux sociaux, Instagram, TikTok et tout. Et en fait, il y a vraiment cette même notion maintenant que des chercheurs ont un peu analysée dans en fait, tout ce qui est l'utilisation de l'IA à tort et à travers dans les entreprises et la perte de productivité qui en découle. Alors, je suis désolé, là, je vous fais un épisode où je passe d'un sujet à un autre, mais voilà, parce que c'est un peu ça. Là, je vous partage un peu comme ça, abrupt, j'ai lancé l'enregistrement sans avoir trop préparé, mais c'est un petit peu les deux dernières semaines, il faut un peu catch-up, voilà, un peu mes réflexions. Mais je vais faire une newsletter vraiment sur ce sujet du work slope. Mais voilà, moi je le ressens, c'est un truc dont je me méfie vraiment, parce que je trouve que moi le premier, on utilise beaucoup l'IA, il faut faire attention. Il faut faire attention déjà parce que si on s'y habitue trop, je pense qu'il y a un vrai risque de déclin cognitif, si on commence que à envoyer des emails, des choses que l'IA nous a prémâchées et tout, c'est pas bon. De même que de plus lire des articles et juste lire des résumés traités par IA, où on peut rater vraiment des choses. Pareil avec les transcripts, les traitements des transcripts, les gens vont plus dans les réunions, ils lisent des résumés, il y a une perte d'informations phénoménale. Enfin voilà, j'ai des anecdotes là-dessus aussi, très intéressantes. Voilà, il y a un sujet là-dessus. Mais donc voilà, le work slope, c'est tout ce travail boosté à l'IA, en fait, qui passe pour du travail de qualité, mais qui en fait est un peu merdique. Il donne un exemple très simple. Hein. Il y a plein de gens maintenant qui vous balancent des emails qu'ils ont fait faire par une IA. Et en fait, eux, peut-être que ça leur a gagné du temps, mais en fait, ils n'y ont pas mis d'effort. Et donc, vous, en fait, vous recevez un email que vous ne comprenez pas bien. Vous allez peut-être devoir faire des allers-retours, vous allez devoir réfléchir. Et en fait, ça va vous faire perdre du temps à vous. Et donc, en fait, au total, on a l'impression qu'il y a un gain de productivité, mais en fait, on perd d'un côté parce qu'on gagne d'un côté, mais on perd de l'autre. Et globalement, ce que ces chercheurs ont montré, c'est que ça peut vraiment faire perdre du temps. Alors évidemment, ça, ce sont les mauvais usages de l'IA, mais voilà, il y a toute une catégorie. On le voit, hein, maintenant, il y a des outils qui permettent de générer des slides, des présentations, des choses comme ça, sauf que les gens ne les relisent plus. Et donc, en fait, ça, c'est un mauvais usage de l'IA. Il faut vraiment, plus que jamais, encore aujourd'hui, même si les modèles deviennent intelligents, je pense, bien relire, bien passer du temps à les prompter, bien réfléchir, en fait. S'aider de l'IA pour se faciliter un peu de la création de slides, c'est OK, c'est même un progrès génial. Mais le temps que vous gagnez sur la conception de vos slides, passez-le en partie à relire pour être sûr que vous n'allez pas envoyer une présentation à vos collègues où il y aura des contresens, des choses comme ça, parce que ça, ça arrive très souvent. Un outil comme Gamma, que j'aime beaucoup, très franchement, quand c'est pas parfait, c'est normal. Et peut-être parce que vous-même, vous n'avez pas passé de temps en amont à préparer le contenu de la présentation. Donc vous voyez, il y a comme ça maintenant, grâce à l'IA, un espèce de travail un peu approximatif, et je suis sûr que vous savez de quoi je parle, peut-être que vous en avez été la cible, vous avez reçu du travail comme ça, peut-être que sans le vouloir, par facilité, vous avez aussi cédé à ça, moi ça m'est arrivé. Mais il faut voilà, en être conscient, il faut faire attention parce qu'en fait, on a l'impression qu'on gagne du temps, en fait on en fait perdre aux autres, puis des fois c'est soi-même qui en perdons parce qu'on en reçoit, enfin bref, vous comprenez un peu l'objectif et le délire de tout ça. Je vous mets les liens là de ces articles, dans les notes, allez voir, et surtout je ferai une newsletter pour parler un peu de ça parce que le sujet me paraît vraiment intéressant. Voilà, globalement, donc voilà, je trouve qu'il y a des discussions très intéressantes en ce moment sur l'IA, et c'est quelque chose dont on a beaucoup parlé lors de notre séminaire annuel à Lille avec l'équipe de Contournement, parce que je pense que Contournement est un des acteurs en France qui est bien placé pour aider les gens à bien travailler avec l'IA, et donc c'est important que l'équipe, nous, chez Contournement, on ait bien conscience de ces choses-là pour bien enseigner les usages de l'IA et pas les mauvais usages, les raccourcis, le travail approximatif et tout ça, mais au contraire, comment s'en méfier et comment mieux travailler. Donc voilà, donc c'était vraiment intéressant, c'était un beau séminaire, on était à Lille, j'ai pu rencontrer des gens du Cercle des Ops aussi, c'était chouette, et puis même un petit peu de la communauté NoCode. On a eu la chance d'être hébergé par Fabien aussi sur une journée où il nous a hébergé dans son cowork chez WeSpace, donc c'était très chouette. Donc voilà, vraiment, moi j'aime beaucoup Lille, j'espère y retourner pour des meet-ups plus ou moins formels, mais voilà, il y a une petite communauté de NoCodeurs et de gens du Cercle des Ops notamment, où c'était vraiment très sympa de se voir, parce que moi je crois beaucoup à ça. Et je rêve d'un lieu à Paris, ou je sais pas où, un peu autour du no-code, ouais, une espèce de no-code house qui nous tient à cœur avec Stan. Peut-être un petit peu avec l'angle aussi du Cercle des Ops, parce que cette communauté, elle grandit. On organise des cohortes, on fait des choses. Peut-être que voilà, c'est ce projet-là qui va permettre d'arriver un petit peu à allier tout ça. Mais parce que voilà, quand on se rencontre en présentiel, c'est vraiment génial, quoi. Voilà. C'est un peu ça. J'ai des petites news en vrac que j'ai envie de vous partager aussi. J'en ai parlé. Alors, N8N, ils ont des améliorations très sympas qu'on va tester avec Claire dans un live, je pense. Il y a une petite base de données maintenant dans N8N. Ça peut être très pratique pour vos automatisations, comme le data store de chez Make. Il y a aussi la possibilité de générer des scénarios avec de l'IA. C'est évidemment très attendu. Je vous avais dit récemment que Zapier l'a très bien fait. N8N, je pense, le fera très bien aussi à un moment ou un autre. Je ne sais pas où ça en est là, mais c'est intéressant, notamment parce que N8N, c'est un outil qui n'est pas forcément facile à prendre en main. Donc, avoir une IA qui peut vous démarrer la création d'un scénario, vous aider, puis après vous affiner, bah, ça peut être vraiment pas mal. Donc voilà. Et puis, tôt ou tard, Make le fera également, je pense, mais bon, pour l'instant, ils sont un peu à la ramasse là-dessus. Make, par contre, ils ont ajouté un truc qui était très attendu, c'est un nœud de code pour pouvoir faire du code, exécuter du code Python ou JavaScript dans vos nœuds, quelque chose qu'on peut faire depuis très longtemps dans Zapier ou dans N8N. N8N, ça fait partie vraiment des fondements de N8N. C'est très pratique parce que ça permet d'économiser des opérations, ça permet de se faciliter la vie plutôt que des fois mettre des enchaînements de modules. C'était vrai notamment dans Zapier. Les formules de Make étaient quand même déjà très bien, très performantes, mais voilà, avoir du code, ça peut être très intéressant. Eux, ils envisagent même un usage d'avoir des étapes d'IA qui génèrent du code et ensuite les exécuter. Moi, je ne sais pas trop si ça, c'est pertinent. Par contre, mettre du code qu'on a codé ou généré par une IA, mais pas à la volée, pas dans le cadre d'un scénario, parce que eux, c'est vraiment, genre, quand l'automatisation s'exécute, en fonction du contexte, l'IA va faire, dans le flow de l'automatisation, générer du code qui, tout de suite, ensuite, va s'exécuter. Bon, je pense que c'est mieux d'exécuter du code bien généré, relu, qui est toujours le même pour toutes les exécutions, pas exécuté à la volée. Mais peut-être qu'il y a des usages que je rate, Là, je pense que juste en vous l'expliquant mal comme ça, en plus, c'est un peu conceptuel, donc vous n'avez pas forcément bien capté l'enjeu. Mais en tout cas, sachez qu'il n'est pas possible maintenant de mettre du code, des petits bouts de code, dans vos scénarios make. Et ça, c'est quand même très, très intéressant. Même si vous êtes no-codeur ou no-codeuse, vous le savez, hein, des fois, maintenant, il faut avoir une approche un petit peu plus low-code, un peu plus no-code, plus code, parce que des fois, ça va vous simplifier la vie et l'IA peut vous simplifier la vie. Donc voilà. Voilà, moi, je vous l'ai déjà dit, hein, moi, je pense que le futur, il est entre le code, le no-code, le vibe coding, l'IA, tout ça. Il faut, suivant son niveau, mais dans sa progression, au début, quand on est débutant, il faut s'astreindre, ne pas trop s'embrouiller, faire du no-code, partir des outils accessibles, Airtable, etc., puis monter progressivement. Et quand on se sent à l'aise, quand on a maîtrisé quand on maîtrise des outils et les concepts fondamentaux, on rajoute par-dessus des nouveaux concepts, des choses qui vont vous permettre à un moment d'arriver sur du code et des approches un peu code plus no-code, quoi. Donc voilà. Et la dernière news qui date d'aujourd'hui, mais j'ai même pas vraiment envie de la commenter parce que c'est encore un buzz un peu à la con. OpenAI a sorti un agent builder. Ça ressemble à un outil de programmation, d'automatisation. C'est pas pour faire de l'automatisation, c'est pour programmer visuellement des agents. C'est intéressant. Mais pourquoi je dis que c'est un buzz à la con, c'est parce que tout de suite, voilà, tout le monde sur LinkedIn, enfin plein de gens ont dit ça y est, Make, Anuiten et tout ça sont morts. C'est pas la même chose, c'est pas le même enjeu. C'est très intéressant, je trouve, que OpenAI propose un outil de programmation visuelle, mais il faut savoir quel est l'objectif de cet outil. Cet outil permet de faire des agents. Donc c'est exactement la même chose que depuis très longtemps vous pouvez faire avec Voiceflow, avec des outils de type voilà, Voiceflow, Chatfuel, des choses comme ça. Donc ces outils-là, par contre, peut-être qu'effectivement, ils ont un peu de soucis à se faire. Ça n'a rien à voir avec les outils no-code d'automatisation. C'est pas le même sujet. Créer des agents conversationnels, voilà. Et en plus, c'est vraiment une première brique, parce qu'en plus, apparemment, je ne l'ai pas testé en détail, mais ce que ça fait, c'est que ça vous génère du code. Ce code, ensuite, vous devez l'héberger quelque part. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout comme dans une approche cloud qui est très importante par rapport à la vision et à la définition même du no-code. C'est que vous n'avez rien installé, rien à héberger, pas de code à lire ou à écrire. Vous utilisez Zapier, Make, ou Anuiten, vous programmez visuellement, vous appuyez sur Publish, votre automatisation est en ligne, elle va fonctionner. Donc là, on n'est même pas encore dans ce paradigme-là. Mais c'est une première brique, c'est assez bien fait. Franchement, j'ai trouvé que le moteur de programmation visuelle était bien fait et un peu agréable à utiliser. Donc voilà, pour faire des agences, c'est une bonne manière de faire, plutôt que de faire de manière conversationnelle ou en code, mais l'idée, c'est qu'en fait, c'est une programmation visuelle qui génère du code, quoi. Et ensuite, vous l'hébergez, agent kit, etc. Mais bon, il y a des trucs pas mal. Il y a des idées, ils vont le rendre de plus en plus simple à utiliser. À terme, probablement, tout sera hébergé et tout. Mais donc, voilà. Donc ça, vous voyez, c'est des buzz où, pour moi, je ne vais pas regarder avant que ça devienne vraiment mature. Et donc, voilà, n'ayez pas de FOMO. Franchement, probablement que vous n'êtes pas concerné. Si vous êtes bidouilleur ou bidouilleuse, allez voir, évidemment, allez jouer avec. On peut déjà faire des choses, c'est intéressant. Mais voilà, n'ayez pas de faux mots. Franchement, c'est pas encore... C'est une vision du futur, c'est une nouvelle brique qu'ils ajoutent. C'est intéressant de voir qu'OpenAI va là-dedans, qu'ils ont une vision un peu applicative aussi de l'IA, pas juste conversationnelle, ChatGPT, et pas juste pour outiller des gens qui font des applications en passant par les API, mais aussi... vraiment une notion un petit peu plus applicative, vous allez pouvoir utiliser des outils d'OpenAI pour construire de l'applicatif, ou en tout cas au moins des agents, quoi. Mais bon, des agents, c'est une forme de logiciel. Voilà, vous inquiétez pas, on va suivre ça, on commentera en temps et en heure quand ça sera intéressant. Voilà, j'ai fait un petit catch-up d'un peu tout en vrac de mes voyages récents. Il y a plein de choses qui arrivent, surtout du vibe coding. J'ai enfin fini la plateforme du Cercle des Ops avec Zeit, enfin, fini une première version. Donc j'ai des heures et des heures, j'ai passé 12 heures à peu près, je crois, il y a à peu près 6 lives de 2 heures. Vous pouvez aller les voir, j'ai pas encore fini de tout uploader, mais tout sera sur la plateforme, ma plateforme de vidéo de vibe coding. Et puis on va reprendre du coup, de tester des outils, de faire des lives comme ça, un peu impromptus, pour tester des nouvelles choses, donc c'est bien, j'ai hâte. Voilà, probablement là, cette semaine, on va voir, mais il y aura des lives, donc allez vous abonner à ma chaîne YouTube. Enfin, pas YouTube et puis Twitch surtout pour les lives. Et puis voilà, parce que ça me manque, parce que j'adore faire des lives, je l'ai déjà dit, mais vraiment... Donc c'était bien, mais on était un peu enfermés là sur ce projet avec Zeit, donc je suis content aussi de refaire des choses, j'ai une petite liste, j'ai des idées de petites choses que je veux utiliser, puis surtout j'ai des outils que j'aimerais tester. Donc voilà, on va voir ça. Bon, eh bien écoutez, voilà, j'espère que vous allez bien, que si vous avez des choses à me partager, n'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer en DM. Si vous avez des discussions que vous voulez lancer par rapport à ce que je racontais, vous avez toujours le Slack, la chaîne Slack de No Code France qui s'appelle Les Contenus d'Alexis. Tout simplement, ça me fait marrer à chaque fois que je le dis, mais bon, j'ai été obligé de changer le nom pour que ça soit plus explicite. Et puis voilà, à très bientôt sur un de ces différents canaux. Et puis voilà, et puis surtout, de manière plus régulière, peut-être pas. La newsletter, j'ai abandonné. Pour l'instant, elle sera irrégulière. Voilà, je vous le dis franchement, mais parce qu'il y a plein de newsletters que j'aime bien qui sont irrégulières, et je sais qu'il faut s'astreindre à une forme de régularité pour quand on a des enjeux. Moi, j'ai pas d'enjeu, en fait, j'ai pas d'enjeu que cette newsletter y ait du monde, mais j'ai envie de l'utiliser parce qu'il y a des fois, par exemple, ce sujet du work slope, je pourrais vous en parler pendant des heures et tout, mais je pense que ça prête bien à un article plutôt écrit, avec des liens, des références et tout. Donc voilà. Mais voilà, donc je vais faire ça. Quand j'ai des choses à dire, je les dirai sur la newsletter, suivant les canaux. Voilà, c'est tout. Mais la veille, comme ça, un peu régulière, j'ai un peu abandonné parce que c'est pas le créneau que j'ai envie de prendre. Il y a déjà des très bonnes newsletters, je l'ai dit plein de fois. Moi, je vais juste utiliser les canaux pour dire ce que j'ai envie de dire, proposer des réflexions, des choses un peu intéressantes ou pas. Ça, c'est vous qui en déciderez. Mais en tout cas, moi, j'ai envie de m'exprimer et j'encourage tout le monde à le faire également. Allez, je vous dis à très bientôt. Salut.